Les premiers mercredis de mois sur fréquence 7 à 12h30 ou à 17h30, c'est Clair d'étoiles. Clair d'étoiles, chronique proposée par l'association Clair d'étoiles les brins de jardin, chaque premier mercredi de mois, 12h30, 17h30. On se retrouve pour la dernière de la saison. Et oui, le mois de juin est déjà arrivé pour parler à la fois du ciel de juin, mais aussi d'une thématique. Ne vous sauvez pas, elle peut faire peur, mais vous allez voir. Pascal Matardir, bonjour.
Bonjour Laurent.
Qui est avec nous, va nous en parler dans un moment. La thématique choisie pour ce mois de juin, c'est les trous noirs.
Tout à fait.
Actualité oblige.
Exact.
Alors commençons peut-être, Pascal, par le ciel de juin avec quelques particularités.
Oui, quelques particularités. D'abord, effectivement, nous approchons du solstice d'été, le vendredi 21 juin, ce qui signifie malheureusement des nuits plus courtes, donc moins de possibilités d'observation. Ce soir, mercredi 5 juin, 1h30 après le coucher du soleil, à droite d'un croissant de lune, on pourra distinguer l'éclat très modeste de Mars. Sur ce croissant de lune, on verra parfaitement la lumière cendrée. La lumière cendrée, c'est la partie de la lumière du soleil reçue sur la Terre et réfléchie vers la lune. La lune est ainsi visible entièrement, avec une petite partie très lumineuse et le reste beaucoup plus sombre. La nuit du dimanche 16 au lundi 17 juin, pleine lune et, à côté de la lune, Jupiter. On pourra admirer le ballet de ce duo dès le coucher du soleil et pendant toute la nuit. Il sera même possible de repérer à l'horizon sud-est, peu avant le coucher du soleil, le lever de la Lune et de Jupiter. Mardi 18 juin au crépuscule, 1h30 après le coucher du soleil, horizon ouest-nord-ouest, un superbe rapprochement entre Mars et légèrement au-dessus Mercure. Plus facile à repérer avec des jumelles qu'à l'œil nu. Plus tard, dans la même nuit, la Lune encore bien ronde, quelques minutes après son apparition à l'horizon sud-est, sera accompagnée par Saturne. Et peu à peu, tout au long de la nuit, les deux astres se rapprocheront. Pour celles et ceux qui pourront observer avec simplement une petite lunette, ce sera un spectacle inoubliable. Enfin, du 22 juin au 2 juillet, l'essaim d'étoiles filantes des Boötides. Son nom provient de la constellation du Bouvier. Pour observer les Boötides, il vous faudra regarder en direction de cette constellation, constellation facile à repérer à partir de la Grande Ourse.
Les Bouviers, tu me dis. Les Bouviers, c'est le nom de cette...
C'est le nom de la constellation qui est facile à repérer à partir de la Grande Ourse que tout le monde connaît.
C'est la Casserole.
C'est la Casserole, effectivement. Et pour repérer la constellation du Bouvier, rien de plus simple. On regarde la Casserole, on va vers le Manche et on prolonge le Manche.
D'accord.
À l'extérieur de la Casserole, et on arrive vers une étoile très brillante, Arcturus, qui est l'étoile la plus brillante de la constellation du Bouvier. Constellation qui ressemble un peu à une cravate dont Arcturus serait le nœud.
D'accord.
Le milieu de la nuit est le meilleur moment pour profiter de cet essaim d'étoiles filantes. Est-ce qu'il sera observable ? C'est très difficile à prévoir, avec, comme d'habitude, tout ce qui concerne les étoiles filantes.
Et puis les nuages.
Et les nuages, bien sûr. Voilà, en gros, tout ce que nous réserve le ciel des prochains jours.
Du mois de ce mois de juin. Alors, on va attaquer, ouvrez grand vos oreilles, on va essayer d'attaquer un sujet très complexe qui fait toujours peur, qui très rapidement nous perd. C'est les fameux trous noirs.
Les fameux trous noirs. Alors, le 10 avril dernier, faisant la une de tous les journaux, il y avait une photo. La photo d'un trou noir. Quelques mois auparavant, ces mêmes journaux annonçaient la détection d'ondes gravitationnelles émises par la fusion de deux trous noirs. Mais que sont ces fameux trous noirs dont on nous parle? Tout d'abord, un peu de physique élémentaire. Vous lancez une pierre en l'air. Elle va monter, puis retomber. Vous la lancez plus fort, elle montera plus haut, mais finira par retomber. Mais si vous la lancez beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort, elle ne retombera plus. Pour cela, il faudra être très, très musclé, puisque la vitesse nécessaire est de 11,2 km par seconde, soit plus de 40 000 km/h. À titre de comparaison, la vitesse d'une balle de fusil est de 1 km par seconde. Cette vitesse s'appelle la vitesse de libération. Maintenant, imaginons la même chose à partir d'une planète de même dimension que le Soleil. Pour un tel astre, la vitesse de libération est supérieure à 600 km seconde. Si on comprime cet astre, on va augmenter la densité, la vitesse de libération s'en trouvera accrue. Et il arrivera un moment où celle-ci devra être supérieure à la vitesse de la lumière, ce qui est impossible. Voilà, nous venons de créer un trou noir. C'est-à-dire un astre duquel rien ne peut sortir, même pas la lumière. Cette hypothèse avait déjà été émise au XVIIIe siècle par Laplace et confirmée plus tard par Albert Einstein dans sa théorie de la relativité. Bien que ce dernier fût un peu sceptique quant à l'existence de tels astres qui lui paraissaient trop bizarres. Finalement, les trous noirs existent-ils réellement? Et dans ce cas-là, comment les détecter puisqu'ils n'émettent aucune lumière? Si les trous noirs n'émettent directement aucune lumière, ils ont une masse très importante, donc ils peuvent agir par gravitation sur leur environnement. Quand on observe le centre de notre galaxie, la Voie lactée, on y voit une grande concentration d'étoiles, qui ne peut s'expliquer que par la présence d'un objet très massif. Et quand on regarde les étoiles près du centre, on voit qu'elles sont animées de mouvements et semblent être en orbite autour du centre de la galaxie. Connaissant les trajectoires de ces étoiles, on peut déterminer la masse de cet objet qui se trouve au centre. On arrive ainsi à une évaluation de 3,5 à 4 millions de fois la masse du Soleil. Pourtant, aucun rayonnement ne nous parvient de ce centre. C'est un trou noir géant. Une grande partie des galaxies possèdent de tels trous noirs en leur centre. C'est un trou noir de ce type qui a eu l'honneur d'avoir son portrait à la une des journaux. Il se trouve au centre d'une galaxie appelée M87, située dans la constellation de la Vierge, à plus de 50 millions d'années-lumière de la Terre.
M87, pourquoi cette appellation
Alors,
particulière?
M87, c'est en l'honneur d'un astronome du XVIIIe siècle qui s'appelait Charles Messier, qui était un chasseur de
D'accord.
comètes. Et pour ne pas confondre ces comètes avec d'autres objets présents dans le ciel, il a décidé de les répertorier et donc de faire son catalogue qui s'appelle M quelque chose, donc pour en fonction du nombre, donc
Donc il en a
pour
plusieurs,
cette
mais oui,
galaxie
d'accord.
M87. Bon, depuis qu'on a découvert beaucoup d'autres galaxies, on n'utilise plus cette classification et aujourd'hui on utilise une classification qui s'appelle NGC, New General Catalogue.
Ah.
Et M87 devient NGC 4486. Moins
D'accord.
poétique.
C'est vrai.
La masse de ce trou noir est estimée à plus de 6 milliards de masses solaires et son diamètre est de 38 milliards de kilomètres, soit plus de 250 fois la distance de la Terre au Soleil. Que voit-on sur cette photo, puisqu'on ne peut pas voir un trou noir car aucune lumière ne peut s'en échapper? L'anneau lumineux que l'on voit correspond aux photons émis par la matière et les gaz qui orbitent autour du trou noir. Avant son plongeon final dans le trou noir à une vitesse proche de celle de la lumière, la matière du disque se transforme en plasma chauffé à des milliards de degrés et ainsi chauffée, elle émet des photons visibles dans les ondes radio. Ces photons ont traversé la galaxie M87, puis l'espace intergalactique pendant plus de 50 millions d'années pour parvenir jusqu'à nous. La zone sombre au centre, c'est l'ombre de l'horizon des événements, cette limite immatérielle du trou noir. Cette photo a pu être réalisée grâce à la mise en réseau de 8 radiotélescopes situés tout autour de la planète, suivis d'un traitement informatique très complexe pour restituer l'image. Il existe un autre type de trou noir, les trous noirs stellaires. C'est la fusion de deux trous noirs de ce type qui a permis de détecter pour la première fois des ondes gravitationnelles. Comment se forment-ils? On sait qu'une étoile en fin de vie, quand elle a consommé tout son combustible, voit son cœur se rétracter. Suivant la masse initiale de l'étoile, cela peut conduire à un trou noir. Notre Soleil n'est pas assez massif pour devenir un trou noir. Pour qu'une étoile finisse en trou noir, sa masse doit être supérieure à 10 fois celle du Soleil. Contrairement aux trous noirs galactiques, les trous noirs stellaires sont extrêmement petits. Un trou noir d'une masse équivalente au Soleil aurait un diamètre de 6 km. ce qui donnera une densité de 1 milliard de tonnes au centimètre cube. Comment peut-on détecter des astres si petits ? Uniquement par leur action sur leur environnement. En particulier, quand un trou noir forme un duo avec une autre étoile, les deux astres vont tourner autour de leur centre de gravité et se rapprocher peu à peu. De la matière de l'étoile va être aspirée par le trou noir et, en tombant sur ce dernier, elle va s'échauffer et émettre un rayonnement détectable. Sont-ils nombreux dans notre galaxie ? Difficile à savoir. Probablement de l'ordre d'une centaine de millions. Peut-être plus. Cela peut paraître beaucoup, mais cela reste faible par rapport aux 400 à 500 milliards d'étoiles qui peuplent notre galaxie. Faut-il en avoir peur ? Imaginons que par un coup de baguette magique, notre Soleil se transforme instantanément en trou noir. Ce qui est certain, c'est que nous aurions brusquement très froid.
Ça.
Mais notre Terre continuera à orbiter comme si de rien n'était autour de ce trou noir. Pour terminer, si on envoyait un explorateur à l'intérieur d'un trou noir,
que verrait-il ?
Il faut d'abord savoir... Un peu suicidaire, hein, on verra par la suite. Il faut d'abord savoir que les trous noirs n'ont pas de surface. Il y a juste une limite au-delà de laquelle rien ne peut s'échapper. Cette limite s'appelle l'horizon du trou noir ou l'horizon des événements. Notre explorateur s'approche du trou noir, franchit cet horizon. À ce moment-là, que se passe-t-il pour lui ? Rien de particulier. Un peu comme un nageur qui ne peut nager qu'un kilomètre, mais pas un mètre de plus. Il a parcouru 500 mètres. S'il fait quelques mètres de plus, sur le moment, ça ne changera pas grand-chose pour lui. Sauf qu'il ne pourra plus revenir à son point de départ. Voilà donc notre explorateur inexorablement entraîné vers le centre du trou noir. Que va-t-il lui arriver ? Imaginons qu'il plonge la tête la première. Sa tête sera donc plus proche du trou noir que ses pieds, et la force d'attraction sera plus forte sur sa tête que sur ses pieds. C'est ce que l'on appelle l'effet de marée. Donc notre explorateur va voir son corps s'étirer inexorablement. Dans son livre « Une brève histoire du temps », Stephen Hawking décrit le vol fictif d'un astronaute qui, passant dans l'horizon des événements d'un trou noir, est étiré comme des spaghettis. D'où le terme maintenant retenu de « spaghettification ». Mais peut-être que ce trou noir n'était qu'un passage vers un autre univers et que notre explorateur aura pu survivre.
Allez savoir. Merci Pascal pour Claire d'étoiles des brins de jardin et pour cette chronique Claire d'étoiles qui se referme pour cette saison 2018-2019. J'espère qu'on vous retrouvera dès le mois de septembre, le mois d'octobre de la prochaine saison sur Fréquence 7, peut-être au même moment. En tout cas, pour cette saison, c'était les premiers mercredis de mois, 12h30 et 17h30. Encore merci à toute l'équipe de Claire d'Étoiles et Brin de Jardin.
Je t'en prie et à bientôt.
À très bientôt. Au revoir.